Mazet, bonne journée.
La carte Visa Orange Monnaie Côte d'Ivoire, valable partout dans la zone UMOA, vous propose l'émission Appel sur l'actualité.
Appelez-nous, exprimez-vous.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
L'Union africaine parviendra-t-elle à sauver l'accord de paix en Centrafrique, un accord signé le mois dernier, mais rapidement contesté par les groupes armés qui contrôlent, je vous le rappelle, 80% du pays. En cause, la composition du nouveau gouvernement prévu par cet accord. Le document stipule en effet la formation d'un gouvernement inclusif. Les mouvements armés s'attendaient tous donc à entrer dans la nouvelle équipe gouvernementale. Seulement voilà, sur les 36 ministres, seule une petite dizaine est issue des groupes armés et les portefeuilles régaliens comme l'économie, les finances, la défense, les affaires étrangères ont tous été conservés par des proches du président Touadéra. Du coup, eh bien, plusieurs membres des groupes armés ont démissionné du gouvernement, d'autres ont même annoncé leur retrait du processus de paix et pour tenter de maintenir en vie cet accord qui n'est autre que le 8e accord en 5 ans, eh bien, le commissaire paix et sécurité de l'Union africaine, Smaïl Tchergui, rencontre depuis hier, un par un, les représentants des 14 groupes armés. Alors, comment sortir de l'impasse? Faut-il revoir la composition de ce gouvernement, accorder davantage de ministères aux mouvements armés? La question n'est pas taboue. On en parle ce matin. 33 9 693 693 70. Des réactions également sur la page Facebook de l'émission. J'en lirai quelques-unes pour alimenter la réflexion. Pour lancer le débat, Thibaut est avec nous. Bonjour.
Bonjour, Johan.
Vous êtes à Bangui, dans la capitale centrafricaine, et vous disiez pas question de faire plus de concessions aux groupes armés.
Oh, Johan, je l'ai dit parce que il faut respecter l'accord qui a été signé à Bangui le 6 février. Il a été dit au président de la République de mettre en place un gouvernement inclusif. Et c'est ce que le président de la République a fait. Donc, nulle part ailleurs, on a mentionné qu'un groupe armé doit bénéficier d'un tel poste ministériel, où on doit faire le partage de pouvoir. Le président a déjà mis en place un gouvernement inclusif. Donc, il faut respecter la parole de tout et chacun. Ce que les groupes armés ont signé, ce que le gouvernement a signé.
Oui, enfin, excusez-moi, Thibaut, vous-même, vous dites gouvernement inclusif. L'est-il vraiment, ce gouvernement inclusif, quand on sait qu'il y avait 14 groupes armés qui ont signé l'accord de paix, qu'au final, seuls 6 d'entre eux se retrouvent au gouvernement?
Mais écoutez, il y a 14 groupes armés. On avait dit il sera pas question de faire entrer les 14 groupes armés dans le gouvernement. Il y aura un nombre de groupes armés qui sera dans le gouvernement et au niveau de certaines institutions, notamment la présidence et la primature, il y aura des postes ministériels, des postes de responsabilité qui seront affectés à certains groupes armés. Mais déjà, chaque groupe armé réclame 2 ou 3 postes. On va avoir un gouvernement pléthorique avec au moins 50 ou 60 ministres. C'est pas sérieux du tout par rapport à la situation de notre pays.
Là où vous avez raison, Thibault, c'est qu'effectivement, les groupes rebelles souhaitaient 2 à 3 de leurs éléments dans le nouveau gouvernement. Sur ce point, vous avez raison. Mais à aucun moment, dans l'accord signé le mois dernier, il n'est stipulé que tous les groupes rebelles ne feront pas partie du nouveau gouvernement. L'accord ne stipule aucun quota ni partage des ministères.
Exactement, c'est ça le problème. C'est pourquoi l'Union africaine doit jouer son rôle de médiation à ces niveaux. Il faut attirer l'attention des deux groupes, notamment les groupes armés et le gouvernement. Et chacun doit respecter scrupuleusement ce qui a été signé. C'est-à-dire, nulle part on a dit que les groupes armés doivent bénéficier de 20 ou de 15 postes ministériels et que le gouvernement doit en avoir 20 ou...
Oui, mais comme ce n'est pas stipulé, les groupes armés peuvent continuer à exiger davantage de présence au sein du gouvernement centrafricain. On va donner la parole évidemment à d'autres auditeurs qui patientent au standard. Des réactions tout de même sur Facebook. Fiacre se dit pessimiste, même si on donne 20 postes ministériels aux rebelles, rebelles, ils continueront à demander l'impossible car leurs ambitions sont démesurées. Fridolin nous dit que pour sauver cet accord, il faut un gouvernement avec les représentants des 14 groupes armés, des représentants de la société civile, mais aussi des partis politiques. C'est le préalable pour le succès des autres dispositions prévues dans cet accord. Cyril, bonjour.
Oui.
Est-ce que vous êtes d'accord?
Ouais, bonjour.
Et partagez-vous le point de vue de Thibault à l'instant qui lançait le débat et qui disait pas question d'accorder davantage de ministères aux groupes armés?
Bon, Juan, je pense que je ne partage pas vraiment le point de vue de mon frère Thibault parce que il faut regarder les choses en face. En politique, les rapports de force se priment. Aujourd'hui, le pays est tenu à 80% par les groupes armés. Et nous sommes allés aux négociations à Khartoum et un accord a été signé. Je trouve qu'il est important que la mise en place du gouvernement tienne compte de cette réalité-là. Parce que la paix n'a pas de prix, mais la paix a un coût. Il est très important que les uns et les autres fassent des concessions parce qu'on ne peut pas, être scotché sur une position et refuser de bouger. Alors que cette guerre a trop duré.
J'entends bien, Cyril. J'entends bien, Cyril. Mais qui doit faire des concessions aujourd'hui? Les groupes armés ou le gouvernement? Le président Touadéra?
Les deux. Mais d'abord, le gouvernement doit faire des concessions. Je pense que être élu, être un gouvernement légitime dans cette situation n'est pas suffisant pour refuser des concessions. Il est important que le gouvernement s'ouvre davantage. Le pays a trop souffert. Et ce n'est pas question de gagner ou de perdre, mais il faut faire des concessions pour que certaines préoccupations des groupes rebelles soient prises en compte. Donc, mais également les groupes rebelles doivent comprendre.
Oui, ils doivent comprendre. Mais vous nous dites que sous prétexte qu'ils contrôlent 80% du territoire, ils devraient, et je caricature un peu vos propos, ils devraient donc obtenir 80% des ministères?
Non, pas du tout. Ne pas avoir 80% des ministères, mais... être un peu représentatif dans le gouvernement. Parce que tel qu'on a fait le type actuel, on voit, franchement, moi je ne suis pas favorable à la rébellion, mais je vois franchement qu'on prend les mêmes et puis on recommence. Je pense qu'il faut faire des concessions à certains niveaux, accepter de céder des postes, aussi important que cela soit, et ça nous permettra donc d'intégrer les uns et les autres, de calmer la situation et d'aller vers l'apaisement. Ouais. Et il est dit dans l'accord de Khartoum, que les groupes armés seront transformés en formation politique. Et donc je pense que ce gouvernement, c'est un gouvernement transitoire. D'ici là, chacun doit aller battre campagne sur les projets de société afin d'espérer avoir la confiance des groupes sud-africains et revenir gouverner le pays de manière normale.
Cyril, Abdou vous écoute, il réagit en même temps sur Facebook, il dit il y a beaucoup trop de groupes armés en Centrafrique, aucun accord ne pourra tenir avec un nombre aussi élevé de groupuscules. Les partenaires de la Centrafrique qui travaillent pour la paix doivent d'abord contraindre ces groupes à se fédérer pour permettre au gouvernement d'avoir un seul interlocuteur. La solution passera-t-elle peut-être par là, nous dit Abdou. Et puis Aubin également sur Facebook nous dit que cet accord est devenu un moyen de pression pour ces chefs rebelles sur le gouvernement en place. Loïc, soyez le bienvenu, bonjour. Alex, me dit-on alors. Bonjour Alex.
Oui, bonjour Juan, bonjour à tous les auditeurs de RFI.
Alors, comment sortir de l'impasse dans votre pays?
Bon, vous savez, l'accord de Khartoum qui a été signé le 6 février dernier à Bangui est considéré comme un accord de dernière chance et qui prévoit un gouvernement inclusif entre les groupes armés et le gouvernement. Et vous voyez, d'abord, la configuration de ce gouvernement pense à savoir que ce n'est pas un gouvernement inclusif. Je vous donne un exemple, par exemple. 7 groupes armés avec 23 de l'ancien, de l'ancien gouvernement. Vous conviendrez avec moi que les groupes armés ont tout à fait raison de guider cet accord, y compris les partis de l'opposition aussi qui ont retiré certains de leurs membres dans ce gouvernement.
Enfin, excusez-moi, Alex, j'entends ce que vous dites, mais quelle est la légitimité des groupes armés pour dire, écoutez, nous exigeons davantage de ministères et nous voulons des ministères plus importants, des ministères régaliens. Le président Touadéra, que je sache, a été élu sans contestation, donc il est légitime. Qui a la légitimité aujourd'hui en Centrafrique? Le président Touadéra ou les groupes armés?
Le président Touadéra était légitimement élu, lui. Mais il fallait faire des concessions. Il fallait regrouper les groupes armés autour de la table pour signer cet accord. C'est pour parvenir à la paix. pour parvenir à la paix. Mmh. Il fallait que les uns et les autres puissent céder pour que les choses avancent mieux.
Oui. Donc vous souhaiteriez une présence plus importante des groupes armés au sein du gouvernement. Loïc, bonjour.
Bonjour Juan, bonjour à tous les auditeurs de l'air ici.
Êtes-vous d'accord avec Alex à l'instant qui dit qu'il faut un gouvernement beaucoup plus inclusif?
Non, je ne suis pas d'accord Juan. Vous êtes d'accord avec moi que l'inclusivité dont il est question, bon ça c'est mon avis personnel, hein. L'inclusivité dont il est question ici ne veut pas forcément dire qu'il faut rentrer dans le gouvernement. Moi je pense qu'il y a beaucoup de domaines dans lesquels ces groupes armés peuvent être facilement reconvertis. Déjà, il y a beaucoup de commissions qui ont été mises en place, notamment les commissions de DDR, les commissions de suivi de l'exécution, de la bonne marche de cet accord. Il y a déjà beaucoup de choses qui peuvent les occuper, pas forcément le gouvernement. Aujourd'hui, tout le monde s'acharne contre le gouvernement. D'abord les groupes rebelles, après la société civile, encore l'opposition. Bon, c'est toute une amalgame. Hein. Donc, moi, je pense qu'il faut vraiment revenir à la raison. Et puis, s'il y a des concessions à faire, vraiment, c'est aux côtés du groupe rebelle de faire cette concession-là.
Donc, c'est aux groupes armés de faire des concessions. Vous disiez tout à l'heure que le processus de paix, on peut y contribuer au sein du gouvernement, mais aussi ailleurs, dans d'autres structures. Et c'est ce que disaient les autorités il y a une dizaine de jours, en disant que les représentants des groupes armés ne s'inquiètent pas. Ils auront l'opportunité de rentrer, par exemple, dans les services de la présidence, dans les services de la primature ou encore dans les organes de suivi de l'application de l'accord. Vous parliez du DDR, désarmement, démobilisation, réinsertion. Effectivement, dans tous ces organes, des membres des groupes armés pourront effectivement être nommés. Un détour sur la page Facebook de l'émission. Oriano, il estime que les réunions qui se tiennent depuis hier à Addis Abeba sont une perte de temps. Même si on leur donne les ministères qu'ils souhaitent, jamais les groupes armés ne désarmeront, car les armes leur permettent de contrôler les ressources minières du pays. Et Oriano, effectivement, a raison d'insister sur ce point. Aujourd'hui, la quasi-totalité des ressources minières du pays sont contrôlées par ces différents groupes armés. 33 9 693 693 70. Ashley, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue, vous êtes à Bangui également. Bonjour. On vous écoute. Comment sortir de l'impasse?
Moi, comme je l'avais dit hier sur mes propos sur RFI, je les répète encore aujourd'hui, je souhaiterais bien que cette négociation, cette dialogue soit tenue à Bangui. Parce que quand on dit on doit gérer une situation de crise, mais avec qui? Est-ce qu'on doit gérer ça avec des étrangers, avec des Centrafricains? Alors si les groupes armés aujourd'hui sont des Centrafricains, ils n'ont qu'à descendre à Bangui et on va gérer entre nous Centrafricains et Centrafricains.
Oui. Enfin, si ce sont Ashley, j'entends bien. Ça change quoi de négocier à Bangui?
Ça change quelque chose. Ça change quelque chose. Ce que ça va changer, parce qu'on aura affaire entre Centrafricains et Centrafricains. Mmh. Parce que si on le fait à l'extérieur, on est manipulé parce qu'il y a des étrangers qui sont là. On ne va pas voiler notre face. Les groupes armés aujourd'hui, 45% sont des Soudanais et des Tchadiens. Est-ce que aujourd'hui, dans le DDR, là, on va faire le rapatriement ou pas? Alors, donc, tous les Centrafricains souhaiteraient bien que cette dialogue soit tenu en Centrafrique, à Bangui, et on les laisse passer là en famille. Et là, maintenant, ceux qui ont pris des armes, ils sont des Centrafricains, ils vont dire pourquoi ils ont pris des armes. Aujourd'hui, quand on les zones minières, est-ce qu'ils ont construit des églises, ils ont construit des écoles, ils ont construit des hôpitaux?
C'est un peu confus. C'est un peu confus, Ashley. Vos propos sont un peu confus, mais ce que vous dites, c'est qu'on lave le linge sale en famille, donc il faut organiser, si je comprends votre analyse, un nouveau dialogue en Centrafrique et un nouveau dialogue pour un nouvel accord.
Non, pas pour un nouvel accord.
Bah alors.
Ce qui a été déjà fait. Ce qui a été déjà fait, on va s'asseoir à côté. On s'assoit à côté pour dire voilà, là c'est bon, là c'est pas bon, on enlève et ils restent sur place à Bangui qu'on puisse gérer ce qu'ils veulent.
Bon.
Mais quand ils sont dans les bourses avec leurs armes, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va devenir? Mmh. Ils vont toujours nous imposer, ils vont. Tout à l'heure, un confrère a dit, le président Touadéra est élu, donc ils vont toujours nous imposer leur façon de faire, et c'est pas normal.
Oui. Oui. Le président Touadéra n'a pas été élu pour satisfaire les besoins des rebelles, mais c'est du peuple, nous dit Apollinaire sur Facebook. Merci Ashley, bonne journée à Bangui. Restons dans la capitale centrafricaine. Bertin, bonjour.
Bonjour Juan.
Alors, que faut-il mettre sur la table pour enfin que cet accord soit respecté par tous ?
Avant de répondre à votre question, Juan, j'aimerais revenir sur deux points. D'abord la question de légitimité et ensuite la question de l'inclusivité. S'agissant de la légitimité, je pense que nul ne doute que le président Touadéra a été élu, donc bon, il a la légitimité. Mais les groupes armés, leurs représentants n'ont pas été élus. Il y a une situation de fait qui oblige aujourd'hui à discuter avec eux, et je pense qu'ils doivent pouvoir comprendre la situation et comprendre aussi la vision de la République africaine, les intérêts de la République africaine, et pouvoir mettre de l'eau dans leur moulin. Si aujourd'hui le président Touadéra ou bien le gouvernement est obligé de discuter avec eux parce qu'il y a une situation de fait qui est là, cela ne doit pas leur donner toute la liberté d'avoir des ambitions démesurées. S'agissant maintenant de l'inclusivité, je pense que je l'ai abordé un petit peu dans ce que je viens de dire aussi. Comment mesure-t-on l'inclusivité ? Par inclusivité, moi je pense qu'il s'agit d'ouvrir, d'ouvrir ce gouvernement au groupe armé. Et cela a été fait. Même s'il y a encore, des couacs, je pense quand même que par souci de la paix, par souci de stabiliser le pays, par souci d'abréger la souffrance du peuple centrafricain, il est utile quand même que les groupes armés fassent mesurer à quel point ils doivent aller.
Donc Bertin, ça veut dire que les groupes armés doivent se contenter de ces quelques ministères.
Il ne s'agit pas de se contenter, mais je crois bien qu'il s'agit de se dire, nous voulons des ministères pour faire quoi par rapport à la République centrafricaine. C'est ça la grande question que les groupes armés doivent se poser. Qu'est-ce qu'ils vont apporter à la République centrafricaine par rapport aux exemples qu'ils mettent en avant. Et c'est ce que nous attendons, la population attend de ces groupes armés-là. Est-ce qu'ils seront plus performants? Ils ont amené la République centrafricaine vraiment à un stade plus performant.
J'entends.
Bertin,
je vous interromps. Je sais, je le vois sur mon écran depuis déjà quasiment le début de l'émission. Max, patiente au standard, il est à Brazzaville. Bonjour Max.
Bonjour Juan Gomez.
Vous dites qu'il ne faut surtout pas donner des ministères importants aux groupes armés.
Effectivement, parce que je ne comprends pas l'insistance des groupes armés à pouvoir occuper des ministères stratégiques dans le pays. Parce qu'il y a eu plusieurs accords en République centrafricaine qui n'ont pas été honorés de la part des groupes armés. Donc, il y a lieu de s'interroger. Les groupes armés recherchent ces postes stratégiques. Est-ce que pour rendre service à la République centrafricaine ou pour bloquer l'action gouvernementale à l'approche des échéances électorales en 2021 ? C'est ça la question qu'il faut se poser. Alors, c'est pour cette raison que je pense, si vraiment ceux qui sont dans ces groupes armés sont des centrafricains, ils doivent comprendre que le président Touadéra n'est pas à l'origine des groupes armés, la naissance des groupes armés en Centrafrique. Il a été élu en mars 2016, et plutôt il a pris fonction en mars 2016. Il faudra qu'on laisse le temps au professeur Faustin Archange Touadéra d'exercer le pouvoir afin qu'après 5 ans, le peuple puisse le juger.
Oui, enfin simplement, est-il en position de force aujourd'hui le président Touadéra quand on sait que 80% du territoire centrafricain est contrôlé par des groupes armés? Le débat est loin d'être clos, on aura, c'est promis, l'occasion d'y revenir prochainement sur l'antenne de RFI. Vous pouvez évidemment continuer à dialoguer, à débattre entre vous sur les réseaux sociaux, sur la page Facebook de l'émission RFI Appel sur l'actualité. Avant de nous quitter, je vous rappelle cette émission exceptionnelle, demain matin, ce micro, Pascal Paradou avec notamment Rémy Gonneau, amoureux des proverbes, Jean-Martial Kouamé, sociolinguiste. Demain, 20 mars, journée internationale de la francophonie, Pascal Paradou vous propose pour l'occasion de jouer avec la langue française. On attend évidemment vos expressions. Comment dites-vous que vous êtes fatigué? Eh bien en France, nous on dit, on est au bout du rouleau. Dans votre pays, en Côte d'Ivoire, un peu partout sur le continent africain, un peu partout dans le monde francophone, eh bien on attend vos expressions. Caroline Paré, bonjour.
Bonjour Juan.
Dans 10 minutes, priorité santé, mémoire et cerveau.
Oui, double actualité Juan, puisque la semaine du cerveau vient tout juste de se terminer en France et que nous sommes en pleine semaine de la presse et des médias dans l'école. Alors à priorité santé aujourd'hui, On inverse, c'est l'école dans les médias, ici à RFI, avec aux commandes de l'émission du jour les élèves de la classe de CM1 de l'école primaire Robert Doisneau d'Issy les Moulineaux. Parmi ces élèves que vous allez entendre tout à l'heure, il y a Maëla, 9 ans, elle est ici à mes côtés. Bonjour Maëla.